Monsieur le conseiller communal, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue aujourd'hui à ce créneau horaire inhabituel. C'était le seul, à vrai dire, qui convenait à notre invitée Claire Marin. Quand je vous ai appelé en début d'été, vous m'avez dit « Marie-Léa, je suis très intéressée, mais il faut trouver une date ». J'ai dit « Ok ». Et après, il me dit « Il n'y a que le 9 décembre qui est possible ». Alors voilà, on a accepté. Merci infiniment d'avoir proposé cette fenêtre-là pour dialoguer avec Manuela Salvi ce soir. En effet, vous accueillir à l'occasion du vernissage de Guillaume Perret nous semblait une telle évidence pour lui et pour moi que nous étions un peu prêts à tout pour créer cette soirée ainsi. J'avais un peu peur qu'il y ait une trop grande concurrence, mais en fait non, ça me ravit de voir une salle si pleine concurrence avec la trotteuse et bien d'autres choses, parce qu'un jour un horaire inhabituel pour nous. Donc merci beaucoup d'être présent ce soir, cela nous réjouit. Nous savourons d'autant plus notre chance aussi que vous m'avez glissé à l'oreille quand je vous ai accueilli, que ça serait sans doute la dernière fois avant longtemps de ce type de rencontre. Heureusement, c'était avant et pas après que vous avez dit ça, mais merci beaucoup. Nous sommes donc des privilégiés et privilégiés de recevoir Claire Marin ce soir. Avant de laisser la parole à Manuela Salvi pour qu'elle vous présente notre invité est un petit peu l'esprit de la rencontre. Je vous rappelle notre dernier événement de l'année. Mardi prochain, le 12 mai, nous recevons l'ancien vice-président de la Banque nationale suisse, Jean-Pierre Dantine. Il est aujourd'hui à la tête d'un centre à l'EPFL qui veut penser comment repenser les entreprises pour qu'elles assurent la viabilité de notre système. Il posera un diagnostic sur les défaillances actuelles et proposera des pistes pour refonder cette économie afin qu'elle devienne plus sensée. Enfin, tout un programme. Nous vous offrirons un verre de vin chaud à la fin de cette soirée. Ce sera l'occasion de vous souhaiter de très belles fêtes. Donc, ça me fera plaisir de vous revoir mardi. Mesdames et messieurs, revenons à ce soir. Vous l'avez compris, ça faisait longtemps qu'on voulait inviter Claire Marin. Claire Marin, vous qui portez si bien votre prénom, vous savez mettre en lumière des zones et des mouvements obscurs de nos vies avec énormément de clarté, vraiment. Et vos livres sont des vraies perles, c'est des petites ressources que l'on aime offrir à celles et ceux que l'on chérit. Ça tombe bien, Noël, ça arrive et ils sont présents ici sur le stand de la Méridienne. Je remercie d'ailleurs Alizée d'avoir préparé ce beau stand. Je vais laisser maintenant la parole à Manuela Salvi. Manuela est journaliste à la RTS. J'aime bien dire que c'est une amie de la maison avec qui on a vécu des magnifiques aventures. Et ça se poursuit. Merci Manuela. Et Manuela, ça fait aussi longtemps que tu me dis « Et alors Claire Marin, c'est quand ?» Donc voilà.
C'est maintenant.
À vous la parole.
Toujours un plaisir de revenir à la Chaux-de-Fonds. Et si vous achetez un livre de Claire Marin, elle va même le dédicacer si vous insistez beaucoup. Elle prendra un peu de temps, prendra une petite place pour rester dans le thème, pour s'asseoir et signer les livres que vous voulez peut-être offrir. Alors, vous présentez Claire Marin. Un objet définit assez bien votre chemin. La manière dont vous nous invitez à cheminer avec vous, c'est le kaléidoscope. D'abord pour sa sonorité, kaléidoscope, c'est long à dire. Et vous les aimez, ces mots qui chantent bizarrement. Le kaléidoscope, c'est dur à dire quand on fait de la radio, comme une envie d'enfance, d'émerveillement, d'étonnement sur le monde, d'étonnement philosophique sur notre intériorité, parce que vous êtes une philosophe de l'intime. Vous explorez nos liens intimes, affectifs, nos liens aux autres, notre identité, notre place, ce que les ruptures provoquent comme déflagration sur les débuts, beaux ou éphémères, qui annoncent d'autres horizons et d'autres départs. Vous plongez dans nos vies en mouvement, dans les défis, en fait, contemporains. Et pour vous, le monde ne se partage pas en deux camps, les hommes et les femmes de l'enracinement et ceux du vent, même si vous portez un nom avec lequel on peut bien conjuguer marin et vent. Ce qui vous intéresse, c'est la métamorphose des horloges de nos vies. Vous êtes une autrice qui compte. Votre signature, surtout depuis Rupture en 2019, qui a eu un succès incroyable de librairie. Votre signature, c'est une écriture qui parle à tout le monde. Question de politesse, dites-vous. Sur votre CV, pour faire simple, c'est un bac scientifique avec une grande école de philo. C'est bien l'École normale supérieure, c'est ça ? De la rue d'Ulm à Paris. La philo, c'est la logique de la pensée. Le bac scientifique, c'est aussi de la logique. Et les questions existentielles, vous les puisez dans la littérature. Une passion donc pour les romans. ou ce qui vous fascine, ce sont les questions philosophiques, la littérature qui nourrit des questions philosophiques comme un travail intérieur qui mûrit. Un essai, je l'ai dit, en 2019, Rupture, vous a placé dans la catégorie des autrices qui comptent. Être à sa place, c'est le suivant. Et le dernier, c'est les débuts. C'est par où commencer. Et au quotidien, l'écriture, bien sûr, vous préparez déjà votre prochain livre et vous enseignez la philo à des adolescents dans une classe préparatoire à Paris. Ils ont entre 17 et 19 ans. Est-ce que j'ai tout dit? Évidemment pas.
Déjà beaucoup.
Mais c'est un résumé qui vous correspond.
Tout à fait.
Kaléidoscope, on va s'exercer à le dire. Il y a un autre mot qui vous plaît comme ça et qui est un peu dur à prononcer?
On a évoqué tout à l'heure le stéthoscope, mais il me plaît moins, mais il est quand même intéressant.
Alors, être à sa place, c'est le thème de ce soir. Habiter sa vie, habiter son corps. Pour ceux qui ont vu l'exposition, certains habitent dans des caravanes, certains habitent des corps un peu comme ils peuvent. Mais je ne vous ai pas dit bonjour. Bienvenue au Club
Merci.
44. On va commencer par ça. Alors, ce être à sa place, cette place, c'est un vertige ou un voyage ?
Alors d'abord, je voudrais vous remercier d'être là un samedi soir, parce que j'ai bien compris que c'était quand même un grand privilège pour moi que vous acceptiez cette date. Et je voulais simplement préciser que ce n'était pas un caprice de ma part, c'est que comme je suis en cours tous les matins à Paris, c'est difficile pour moi d'être ici le soir en semaine. Voilà.
Vertige au voyage.
Voilà. Ça peut être les deux à la fois, je crois, et qu'il y a quelque chose à la fois d'inquiétant et de tentant dans ce vertige et ce mouvement-là où on perd un peu pied. Et les enfants aiment jouer à tourner sur eux-mêmes pour être un petit peu désorientés. Donc on est toujours entre ce jeu et cette angoisse de perdre l'équilibre. Et peut-être que dans le vertige aussi, ce qui est intéressant dans le moment où on arrête de tourner, c'est que ce qui était fixe montre qu'il est aussi un peu mouvant et que les apparences de solidité ou de fixité, elles méritent d'être interrogées.
Que l'impermanence, c'est un peu ce qui qualifie nos vies, mais être à sa place, on parle de vertige, de voyage, mais souvent on a envie que ce soit une destination. Ce qui n'a pas rêvé d'une place à soi, rassurante, durable. Or, là, vous cassez le rêve, hein. Ça n'existe pas, c'est que de la nostalgie.
Non, je pense que ça produit une autre forme de projection qui peut être aussi très enthousiasmante, de se dire qu'il y aura sans doute différentes places et qu'on ne va pas rester définitivement dans la même place, même si elle nous plaît. On voit des gens qui sont à des places très privilégiées dans leur travail ou affectivement et qui sont très angoissés de se dire qu'ils vont rester à cette place jusqu'à la fin de leur vie.
C'est donc la peur de la perdre.
C'est pas forcément, c'est la peur d'avoir, de ne plus avoir quelque chose de neuf ou de différent et d'avoir déjà atteint son but. Alors la plupart d'entre nous, on a très envie d'atteindre un but qui paraît inaccessible, etc. Mais quand on l'atteint, qu'est-ce qui nous reste encore à vivre, à espérer? Est-ce que finalement, ce qui se passe souvent, c'est que l'horizon se déplace au fur et à mesure qu'on s'en approche? Ou l'autre possibilité, c'est d'être à la place dont on a beaucoup rêvé et de se rendre compte qu'elle est très différente de ce qu'on avait imaginé. Et que la place dont on rêve, c'est justement un rêve, un fantasme. Et que ce fantasme a un effet dynamique, il nous propulse, il nous entraîne. Mais qu'il n'a pas d'autre fonction que d'être finalement moteur et qu'il n'a pas de réalité à proprement parler.
Et parfois on confond ce moteur-là avec la réalité, ça devient qu'une illusion. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce rêve d'une place à soi qui est la nôtre et pas celle du voisin, pas celle de son frère, pas celle de son conjoint, de ses grands-parents, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la nostalgie?
Parce qu'il y a quelque chose de peut-être quasiment psychanalytique dans le fait d'être parfaitement dans un endroit qui nous enveloppe, qui nous protège, qui est chaud, qui nous nourrit.
On reste dans le ventre de sa maman dans ce cas-là.
Il y a quand même quelque chose de cet ordre dans l'idée d'une place à soi qui aurait parfaitement une forme accueillante pour nous. et qui serait protectrice. Donc cette illusion ou cette image-là, on l'a d'autant plus qu'on se sent vulnérable ou qu'on manque de protection.
Fragile.
Oui, c'est ça.
Mais le mot place, il est tout court, hein, ce mot. Vous qui aimez les mots, alors il ne ressemble pas du tout à kaléidoscope. Il s'enroule dans la bouche avant d'exister. Comment il résonne, ce mot place? Même on peut le prolonger.
Oui, c'est vrai. Voilà, moi, ce qui me plaisait dans ce mot, c'est toutes les expressions dans lesquelles il se décline, à la fois des expressions qui peuvent être joyeuses ou plaisantes, des expressions qui peuvent être déjà politiques et hiérarchisantes. Il y avait des places réservées ce soir, donc ça dit déjà quelque chose. Nous sommes de ce côté-là, dans des fauteuils extrêmement confortables et très très beaux. Voilà, il y a toutes les places ne sont pas les mêmes. Et puis après, il y a reste à ta place. Il y a aussi des manières d'assigner des places qui sont des formes assez violentes de comment dire ? Oui, c'est
d'assignation
violente, voilà.
Mais souvent, cette question de la place, on l'éprouve et elle commence par un malaise. C'est quoi la place ? Elle se joue aussi dans le corps, à travers le corps ?
Je crois qu'on a tous le souvenir d'un moment où on ne se sentait pas à sa place, dans un événement ou dans une situation, que ça soit d'évaluation ou de grandes différences sociales. Et ça, c'est déjà physique, en fait. On ne se sent pas bien, on ne sait pas quoi faire de ses mains, on ne sait pas quelle posture adopter. Donc, il y a quelque chose qui est déjà de l'ordre d'une émotion qui nous dit qu'on n'est pas, ou qui nous fait croire.
C'est quelque chose qui ne sonne pas juste.
C'est quelque chose aussi qui est très intériorisé par des habitus, donc des émotions sociales, en fait.
Mais à quoi alors on sent qu'on est à sa place, puisque c'est une expérience aussi corporelle, qu'on sent qu'on n'y est pas, mais quand on y est, il se passe quoi?
On pourrait presque dire que là encore, ça se voit. Et pour ça, avant même la sociologie et l'étude des postures du corps, on a cette idée chez Spinoza qui dit bien que le fait d'être à l'aise, il dit que c'est comme une dilatation, une ouverture du corps. Donc là aussi, être à l'aise ou se sentir à sa place, je crois que ça se voit, ça s'entend. Qu'il y a des postures, on voit très bien quand on est professeur et qu'on a des étudiants devant nous, il y a ceux qui ont une forme d'aisance et qui peut-être depuis longtemps savent qu'ils ont une place
Et qu'elle est légitime, cette place, et qu'ils la sentent en tout cas comme légitime,
qu'ils la sentent comme telle et qui parfois ne l'interrogent même pas, et puis il y a ceux pour qui il va falloir la conquérir. Et c'est aussi à ça qu'on sert comme enseignant, je crois, de les aider à imaginer leur place, d'abord, parce que si on ne l'a pas en tête, elle ne pourra pas exister. Et après, à croire qu'ils peuvent y arriver par effraction, par invention, ou qu'ils peuvent la fabriquer, la créer. Mais je crois que c'est ça, finalement, qui est le plus motivant dans ce métier, c'est d'aider chacun à trouver quelque chose comme au moins l'idée de sa place.
Parce que trouver sa place, être à sa place, c'est aussi une quête de soi, une quête de l'identité.
C'est forcément lié à une identité, soit une identité contrainte, quand ma place est écrite à l'avance ou désignée à l'avance.
Et souvent, elles sont écrites à l'avance. On nous les assigne, des places.
La plupart du temps,
effectivement. Ne serait-ce que dans la fratrie, où on est l'aîné ou le cadet, et ça change.
Oui, alors il y a cette chronologie, mais il y a aussi, on le sait bien, des rapports particuliers qui font que le cadet peut être l'aîné, au sens où c'est lui qui décide, parce que sa profession, ses revenus, ou tout autre type de critères, aussi absurde soit-il, le désigne comme celui qui décide ou qui dirige. Donc il y a un moment, j'emploie l'image des chaises musicales, mais on sait très bien que les places au sein de la famille, elle n'arrête pas de changer.
Selon l'âge aussi.
Selon l'âge, selon les événements de la vie, si l'un des membres de la fratrie connaît une épreuve qui le fragilise, qui le rend vulnérable, les rapports parfois de soins ou de soucis de l'autre peuvent se transformer radicalement. Et quand les parents vieillissent, ben parfois on devient le parent de ses parents. Donc là aussi, les rapports, même de hiérarchie affective, si on peut dire, se transforment.
Alors, pas de place dans l'absolu, on l'a bien compris, Claire Marin, en chemin selon les âges, des expériences aussi selon les âges, une quête de soi. On peut conquérir d'autres places, on le verra tout à l'heure avec les transfuges de classe, hein, où on se dit, mais on va monter dans l'échelle sociale. Mais est-ce qu'on l'a choisi vraiment, notre place?
Je crois qu'il y a sans doute une part un peu de hasard et de rencontre dans le fait qu'on s'imagine une place. Je crois que la représentation, c'est vraiment un élément essentiel. Si toutes mes représentations ne viennent que de mon milieu, évidemment, je ne la choisis pas, mais je peux l'aimer quand même. C'est pas pour autant que je serai malheureux ou malheureuse dans cette place, mais je crois qu'il faut quand même se la réapproprier pour qu'elle ne soit pas juste une espèce d'héritage imposé d'une certaine manière. Mais pour imaginer d'autres places que celles qui sont familières, il faut une rencontre, il faut des lectures ou un film ou quelque chose qui nous présente un monde différent.
Un désir d'ailleurs, en fait.
Voilà, exactement. Et cet ailleurs, il peut être très proche géographiquement, mais très différent par l'univers auquel il renvoie.
Et pourquoi le sentiment aujourd'hui de ne pas être à sa place est-il si partagé? Pourquoi cette question, elle résonne autant?
Peut-être parce que pendant longtemps, c'était une question qu'on ne se posait pas, parce que se la poser, c'était juste une souffrance auquel on ne pourrait pas trouver de solution. C'est-à-dire, et encore aujourd'hui, pour les femmes notamment, très clairement, il y a des places qui sont imposées, des places qui sont... des enfermements en fait et qui clairement ne correspondent pas aux aspirations sans doute de la plupart de ces femmes. Donc si la question n'est pas posée, c'est aussi parce que concrètement on sait que l'interroger pour le moment c'est se confronter à des pouvoirs assez violents.
Donc, ça veut dire aussi qu'il faut se battre pour une place. Parce que c'est une lutte aussi.
Je pense même que ça fait aussi la qualité ou la valeur à nos yeux d'une place quand elle a été conquise. Et il faut ruser aussi. Se battre, oui, mais ruser. Ou, encore une fois, créer sa place dans un entre-deux ou une catégorie qui n'existe pas ou coudre ensemble des éléments qui, a priori, sont très éloignés. Je crois beaucoup à cette idée que notre place, elle ne peut pas déjà exister d'une certaine manière.
En tout cas, pourtant, vous disiez qu'il faut se l'imaginer. Donc, oui. C'est qu'elle existe quelque part ou pas?
Non, mais c'est comme une chimère. On la fabrique à partir de choses qu'on connaît, mais ça n'existe pas. Donc, chacun se fait sa chimère et à partir de là... essayer de voir avec quel petit bout on peut la bricoler.
Alors vous parlez de places normées, hein, celles qui ont été assignées aux femmes, mais on ne peut pas résumer le féminisme à trouver une place ou une autre place. C'est plus compliqué que ça.
D'autant que là, depuis le début, on parle d'une place comme s'il n'y en avait qu'une, mais il y a évidemment la place au sein de la famille, au sein de la société, la place professionnelle. Donc tous ces éléments-là, c'est autant de places qu'il faut faire tenir à peu près en équilibre. Donc, en réalité, c'est aussi la conjugaison de ces places, le fait que l'une empiète sur l'autre, l'une interdise l'autre, ces choix qu'il faut faire parfois entre deux constructions différentes de soi ou des univers qui sont, pour le coup, très incompatibles. Et cette question, peut-être, se pose plus quand même pour les femmes que pour les hommes.
Faire ses preuves aussi, hein, là on est plutôt dans le monde du travail, être à la hauteur, est-ce aussi pour cela que la question résonne autant? Parce que il y a beaucoup de pression, de performance, donc on aurait peur de la perdre, cette place-là, ou en tout cas la place qu'on occupe temporairement dans une entreprise.
Je crois que ce qui fait que cette question est devenue sensible, c'est que tous les endroits où on pouvait trouver une place sur laquelle, d'une certaine manière, on comptait, sont devenus un petit peu branlants. C'est-à-dire que les familles, elles se refont, défont, recomposent beaucoup plus qu'auparavant. Les statistiques des couples sont aussi assez significatifs, enfin de la durée des couples. Le rapport au travail, plus personne aujourd'hui n'imagine passer toute sa vie dans la même entreprise. Et puis d'autres éléments de stabilité sont peut-être aussi à réinventer, c'est-à-dire appartenir à un parti politique ou s'inscrire durablement dans la foi. Toutes ces questions-là, en fait, sont quand même assez mouvantes. Et puis, évidemment, le changement climatique et cette donnée d'une imprévisibilité ou d'une prévisibilité très angoissante.
Ce qui pose la question de notre place sur cette planète.
Oui, y a cette question, en réalité, elle est évidemment écologique. C'était, à mon sens, une trop grande question sur laquelle je suis pas du tout compétente, mais évidemment, il y a la question de redéfinir notre place dans une échelle qui est celle de l'échelle des, enfin, à l'échelle des vivants, et non plus dans une perspective très, très égocentrée, finalement.
Ce que vous décrivez, Claire Marin, c'est une société très instable, où, au fond, rien n'est acquis, où on doit s'adapter en permanence. On ne sait pas très bien à quoi, mais il faut qu'on s'adapte. Ça veut dire que la question de trouver sa place, d'être à sa place, d'être bien là où on est, elle repose uniquement sur nous, les individus.
Non, je pense qu'il y a une responsabilité des institutions. Il y a des structures politiques dont on voit bien qu'elles peuvent créer de la durée, de la solidité. Par exemple, dans les parcours éducatifs, enfin, je pense que dans le soin, dans l'éducation, il y a évidemment des choses qui doivent être des institutions. C'est-à-dire, une institution, c'est ce qui dure. C'est ce qui crée artificiellement de la durée pour les hommes qui précisément souffrent du manque de durée. Or, on est face à des institutions, je parle, j'allais dire pour ma paroisse, mais en tant que Française, sont en train d'obéir de plus en plus à justement la logique du renouvellement incessant et absurde. Donc cette logique de la souplesse du monde libéral, elle détruit ce qui était un tissu social, éducatif, etc., qui permettait quand même une forme de stabilité.
Et de continuité aussi.
Et de continuité, parce que voilà, le parcours vers une place dans la société, ça ne se fait pas sur 2 ans qui ensuite seront complètement réformés à la faveur d'une nouvelle tête au gouvernement.
Reste à ta place. Vous évoquiez les expressions où le terme place est utilisé souvent. Reste à ta place parce que tu es né dans une famille de paysans, d'ouvriers, parce que tu es né dans tel pays ou dans tel autre. C'est aussi la question des transfuges de classe, vous l'évoquez dans le livre.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire on peut changer. On a une place assignée, mais on peut conquérir d'autres places.
Oui, ce qu'on sait depuis longtemps, puisque dans la littérature, en fait, ce qu'on n'appelait pas transclasse existait déjà. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est devenu un personnage social qui a une visibilité tout autre. On voit bien dans la littérature à quel point c'est devenu finalement presque une catégorie. C'est un thème qui est passé finalement de la sociologie à l'autofiction ou aux ouvrages.
C'est Annie Ernaux, c'est Édouard Louis dans la littérature.
Voilà, c'est aussi par exemple Didier Ribon, mais on voit de plus en plus de récits qui sont dans cette perspective. Et il y a dans ces récits-là quelque chose qui dit cette effraction dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire par où on passe, comment on bifurque, ou quelle voie détournée on prend pour sortir d'un lieu où soit on ne se sent pas bien, soit on est rejeté, parce qu'il y a aussi cette idée-là, c'est que le transclasse, il peut éventuellement partir parce qu'il se sent d'autres aspirations que celles de son milieu d'origine, mais c'est aussi celui qui est rejeté pour son homosexualité, pour même juste son côté efféminé qui précipite ce qui pourrait l'être, enfin, pour même un mode de vie ou des choses qui a priori sont trop différentes. Donc il y a les deux motifs, il y a la volonté, le désir de partir, et il y a
la nécessité pour la survie.
Exactement.
Ne serait-ce que la survie psychique, mais ceux qui ont la volonté de partir, souvent c'est perçu, cette recherche, cette quête d'une autre place, comme une trahison.
Ça, c'est la lecture qui était celle de Bourdieu et qui est dans les textes d'Annie Ernaux, où il y a à la fois la trahison et puis il y a aussi la vengeance, dans la fameuse expression « venger ma race », qu'elle a même reprise dans le discours
de Nobel. C'est Annie Ernaux. Hein.
Oui, tout à fait. Mais il y a aussi une autre voix qu'on entend aujourd'hui et qui, moi, m'intéresse beaucoup parce qu'elle résonne avec la jeunesse que j'ai face à moi, c'est-à-dire une voix qui ne se reconnaît pas du tout dans ce sentiment de honte des origines ou de déloyauté, et qu'on retrouve par exemple chez la philosophe française Chantal Jacquet, qui a aussi écrit sur les transclasses. Elle dit qu'elle n'aime pas transfuge, parce que dans transfuge, il y a fuir. C'est celui qui traverse pour fuir. Et elle dit non, ce n'est pas une fuite. Il y a cette idée qu'elle défend, et que je trouve très belle et beaucoup plus enthousiasmante, que finalement, être capable de naviguer, puisqu'on est dans les jeux de mots, d'un endroit à l'autre,
sortez la boussole,
d'une rive à l'autre, le plaisir de parler comme un bilingue, deux langues, c'est-à-dire deux langages sociaux, de savoir s'adapter à des codes ou à d'autres, d'avoir des divertissements ou des types de sociabilité très différentes, c'est un grand plaisir.
Mais là, c'est quand c'est bien vécu, parce que oui, souvent, ça peut effectivement créer le malaise et ne plus savoir à qui on appartient, à quelle classe on appartient, et c'est parfois assez inconfortable.
Oui, mais est-ce qu'on a besoin d'appartenir à une seule classe ?
Non, mais ça rassure.
Oui, sans doute. Mais on peut quand même imaginer... moi, j'entends cette idée qui... Et ici, par exemple, beaucoup parlent plusieurs langues. Et personne n'aurait l'impression de trahir une langue en parlant l'autre. Enfin, si, peut-être, mais tout ça pour dire qu'on peut être heureux dans cette capacité à passer d'un univers à un autre sans pour autant que ce soit de l'ordre de la trahison.
Mais souvent, c'est le regard de l'autre, parce que chercher sa place, trouver sa place, cette quête de soi... on ne la fait pas tout seul, perdu sur une île déserte. Elle se fait par rapport aux autres, et souvent le regard de l'autre dit : mais que fais-tu là ? Est-ce que c'est bien ta place ? Retourne à ta place. On t'accorde un strapontin ici.
Oui, ben je crois que ça donne aussi la force de s'affranchir un peu de ce regard et de ce jugement. L'avantage, et là je serais assez d'accord avec Bourdieu ou Annie Ernaux, c'est que allant d'un milieu à l'autre, on déjoue aussi ce qui est de l'ordre de la posture ou de l'assurance qu'on croit identifier chez les autres. Enfin, peut-être qu'on voit le double fond plus facilement que ceux qui baignent dans le même milieu depuis toujours.
Ça, c'est le regard optimiste. Le monde, évidemment, vous le dites bien dans le livre, n'est pas partagé en deux entre les nomades et les enracinés. Vous avez cette très belle expression, les hommes de la terre et les filles du vent. Mais les hommes de la terre, c'est le besoin de racines, Est-ce que ce n'est pas un besoin très humain, ça, le besoin de s'enraciner, de trouver sa place là, dans un coin de terre?
J'aime beaucoup ce que défend Barbara Cassin quand elle parle de la nostalgie. Et elle dit qu'effectivement, on a besoin d'avoir peut-être une terre, mais qu'elle peut être très différente, qu'on peut choisir cette terre. C'est ce qu'elle dit dans son rapport à la Corse, qui est le lieu qu'elle a finalement décidé d'élire. Et ça, je trouve ça intéressant, l'idée que peut-être il y a un lieu qui, pour moi, a une valeur symbolique, affective, toute particulière, mais que ce lieu n'est pas nécessairement lié à l'histoire de ceux qui m'ont précédé dans ma famille ou à ma propre biographie. Ça peut être un lieu très choisi, voilà, au fil de notre expérience, ou un lieu qui dit quelque chose d'un mode de vie ou d'une culture qui me parle, quand bien même elle est complètement étrangère à ma culture d'origine.
Et là, vous, évidemment, c'est la question de la liberté, mais ce besoin de racines, le sol, la patrie, instrumentalisée évidemment par la droite, par l'extrême droite, le passeport, être français, être suisse, italien ou allemand, c'est quand même un besoin de sécurité, ou si ce n'est pas de la sécurité, d'appartenance collective. Il y a des places individuelles et des places plus collectives.
Oui, mais alors, moi, je suis pas très... Enfin, ces mots de patrie et d'appartenance, ça ne me parle pas beaucoup, parce que depuis une trentaine d'années, mon environnement est d'une très très grande mixité, et j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose de, comment dire ça, de presque obsolète dans ces notions.
S'il était vraiment obsolète, il n'y aurait plus d'extrême droite.
Non, mais bien sûr. Je vois bien à quel point elles résonnent aujourd'hui et comment elles reviennent. Mais disons qu'il y a des endroits où la mixité est telle. Et
mais elle fait peur aussi, la mixité.
Oui, mais elle fait peur à ceux qui, finalement, ne la connaissent pas et ne veulent pas la connaître. Et c'est ça qui est toujours très frappant, de voir qui se réfugie dans ce type de pensée. Parce que, à mon sens, cette manière de penser l'identité, on en parlait cet après-midi, dans la stricte...
On a enregistré un podcast, c'est pour ça qu'elle fait référence à ça.
La stricte voilà, similitude, c'est tellement appauvrissant à certains endroits. Enfin, moi, je suis toujours frappée de voir comment quelque chose de neuf et d'inconnu produit une forme de stimulation intellectuelle, un élan, un enthousiasme. Et je ne comprends pas qu'on puisse se priver de ça, de ce plaisir d'une découverte, d'une différence.
On vous entend bien, Claire Marin, mais quand les conditions sociales sont difficiles, quand on a peur de perdre sa place, quand les conditions du quotidien sont difficiles, évidemment, les discours qui rassurent, le sol, la patrie, on va vous défendre, évidemment, ça ne peut que marcher, ça ne peut que fonctionner.
Bah, disons que dans des milieux très mixtes, les conditions aussi sont difficiles. Donc, à certains endroits, c'est aussi une forme de simplification de l'équation. Moi, le public que j'ai, c'est un public qui socialement est défavorisé.
Et qu'est-ce que vous leur dites sur la question de la place ?
Ah ben, j'ai pas besoin de leur dire. C'est-à-dire, ils ont très bien compris qu'il va falloir lutter, qu'il va falloir l'inventer, qu'il faudra peut-être aller la chercher ailleurs. Mais ça, c'est déjà, d'une certaine manière, ce logiciel est déjà en place pour la génération que j'ai face à moi. Qu'il faudra sans cesse en imaginer d'autres, et qu'on est dans cette création de places qui bougent. Et peut-être, à la différence de ma génération, il y a des choses qui sont de l'ordre de la co-création. C'est-à-dire, il y a quand même, on est toujours en train de parler d'individualisme, etc., mais des mouvements d'implication alors on va dire politiques, mais qui ne ressemblent pas aux formations politiques
qui ne sont pas liées en partie.
Connaître. Et les implications dans les vies, enfin les micro-politiques qu'on peut avoir dans les associations humanitaires, dans les foyers de quartier, dans l'engagement écologique. Enfin, moi, je suis très frappée de voir les dossiers des jeunes étudiants qui ont 18 ans. Il y a une participation à une vie sociale qui est très différente de la nôtre et qui ne passe pas par les biais enfin, de celles qu'on pouvait avoir,
qui passe par des biais assignés.
Qui ne passe pas par des appartenances, par exemple, à un cadre religieux ou à un cadre politique, mais qui passe par des actions, qui passe par des relations, d'être tuteur, de donner des cours d'alphabétisation, de s'occuper des banques alimentaires, puisque c'est devenu un élément clé. Donc il y a vraiment un autre type d'engagement qui est très concret, qui est très visible. C'est-à-dire, à la fin de l'année, ils peuvent tous dire ce qu'ils ont fait à côté d'aller à l'école, de suivre des cours, etc. Et donc, il y a une pratique, déjà, d'une vie collective beaucoup plus réelle, en fait, beaucoup plus concrète que celle qu'on pouvait connaître, à mon sens, pour ma génération.
Ça veut dire, est-ce que vous iriez jusque-là, que la question de la place, elle se pose maintenant, aujourd'hui, différemment ?
Oui, complètement. Complètement, parce que déjà, elle se pose pas pour le même public. Elle se pose pour les filles beaucoup plus qu'elle ne pouvait se poser auparavant, évidemment. Et elle se pose aussi différemment parce que quand on a été, comment dire, baigné dans une forme de mixité sociale et culturelle, le fait de passer facilement d'une langue à une autre ou d'avoir des repères dans des cultures très différentes, ça permet quand même d'envisager la possibilité d'être à la fois dans des sphères linguistiques, culturelles, économiques.
Donc dans de la souplesse.
Oui, tout à fait.
Et de l'adaptation. Mais vous enseignez aujourd'hui à Paris. Quand vous enseignez en banlieue parisienne,
vous auriez tenu le même discours ?
J'ai
exactement les mêmes étudiants à Paris et en banlieue, pour une raison très simple. C'est que les deux lycées où j'enseigne sont juste à la périphérie. Et donc, il n'y a que des élèves de banlieue dans mes cours. Donc, j'ai changé d'établissement, mais je n'ai pas changé de public. C'est 50% ou 40% d'élèves boursiers. Au moins la moitié qui sont issus de familles de l'immigration et qui donc, grâce à ces classes préparatoires qui sont publiques et gratuites, envisagent des parcours qui traditionnellement étaient des parcours réservés effectivement à une espèce d'élite sociale dans une logique qui était celle de la reproduction. Mais aujourd'hui, la plupart de ces établissements-là accueille des enfants de classe moyenne ou parfois de milieux défavorisés.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que la société, enfin c'est un mot un peu bateau, mais accorde à ces jeunes qui sont en quête d'autre chose une place ? C'est-à-dire, on peut bien inventer une vie, inventer une place, imaginer avoir un désir d'ailleurs, mais encore faut-il que ça débouche sur quelque chose de concret ?
Alors moi, j'ai beaucoup de contacts avec mes anciens étudiants et je suis frappée de voir la différence que font ces années-là d'études supérieures, donc ces 2 ou 3 ans, sur leur parcours professionnel et leur parcours personnel. Parce que, alors évidemment, ça fait un certain nombre d'années, chaque année, il y a des centaines d'étudiants. J'imagine que ceux qui ont eu des difficultés, ce n'est pas nécessairement ceux qui donnent de leurs nouvelles. Donc il y a un biais, mais quand même. Je vois aussi l'effet boule de neige, c'est-à-dire quand un frère ou un cousin passe par cette classe et réussit à faire un beau parcours par la suite dans le supérieur, ça crée une dynamique très, très positive. Donc mon expérience, comme celle de beaucoup d'autres professeurs de ces formations-là, c'est que ça change véritablement la trajectoire d'abord professionnel et donc social de ces étudiants. Et souvent, moi je vois tout le temps des fratries. C'est-à-dire quand l'aîné est passé là, en général, on sait qu'on aura les frères et sœurs, les cousins.
Ça veut dire qu'on peut élargir la plupart du temps la place qu'on occupe.
Ah ben, bien sûr. Moi, je là-dessus, je sais que certains peut-être trouvent ça idéaliste, mais c'est la réalité.
On a l'impression que vous décrivez un monde où tout va plus ou moins bien.
Non, alors, on sait ce qui va mal. On sait ce qui arrive à certains professeurs, y compris des collègues qui enseignaient Samuel Paty, c'était le juste à côté de l'endroit où j'enseignais à Cergy. Donc, les moments de découragement, on les connaît. On sait qu'on enseigne dans des conditions matérielles. Mais ça, je ne vais pas faire la litanie de tout ce qu'on
connaît déjà, c'est ça.
pour bien enseigner. N'empêche que, y compris avec ce bricolage entre un chauffage qui ne marche pas et les éclairages qui nous tombent sur la tête, on arrive quand même à faire avec ces étudiants des choses incroyables. Donc, y a un dispositif qui fonctionne, que certains estiment trop coûteux, mais que moi, je trouve absolument nécessaire et qui devrait être l'une des fiertés de notre enseignement supérieur.
Trouver sa place, quête de soi, quand on est dans une situation de paix, de stabilité, c'est toujours une épreuve, mais c'est plus facile parce qu'il y a la question des déracinés, des migrants, des réfugiés, des émigrés. Ces termes ont-ils tous le même sens pour vous, Claire Marin ?
Non, ils n'ont pas le même sens. Et on voit bien qu'on a remplacé réfugiés par migrants. Donc, évidemment, on sait bien qu'il y a des connotations très différentes ou des sous-entendus derrière ces mots, mais quand même la question de l'asile et de l'hospitalité, c'est quelque chose dans les mots que j'aime bien. Les Grecs ont le mot xénophilia, bizarrement on l'a pas en français et je trouve que c'est dommage. C'est quand même quelque chose qui est d'abord qui est enrichissant, je crois, sincèrement, d'être confronté à une altérité et qui est aussi l'expérience d'un décentrement. Je crois que dans ce décentrement, on a beaucoup à apprendre sur soi aussi. C'est quelque chose qui nous fait sortir aussi d'une forme d'aveuglement, parce que malgré tout, on est très privilégié dans la position qui est partagée ce soir. Si on peut tous être là ce soir, c'est qu'on est déjà parmi les plus privilégiés.
Aveuglement, évidemment, instrumentalisé par un certain nombre de partis politiques, mais c'est déraciné. Soyons plus neutres en parlant de déracinés, d'exilés qui ont tout perdu, qui arrivent avec quelques affaires, quelques souvenirs dans une valise. Aujourd'hui, depuis 2 ans, ce sont les Ukrainiens qui fuient la guerre, avant eux les Syriens ou tous ceux qui fuient la misère. Ils n'ont plus de lieu, plus de place. Est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'on les met politiquement dans une salle d'attente ?
C'est pire qu'une salle d'attente. Enfin, les conditions qu'on leur propose, c'est...
C'est des sans-place.
Indigne, oui, tout à fait. Ouais.
Mais est-ce qu'on peut, une fois qu'on a un statut de sans-place et sans papier et sans légitimité à être là, est-ce qu'on peut se faire une place là où le hasard nous jette, quand l'exil c'est la seule issue, c'est la seule survie possible? Et là, on est vraiment dans des questions politiques qui agitent notre époque.
Oui, il y a... Ce à quoi vous faites allusion dans le livre, c'est partie des journaux d'exil de Günther Anders, qui sont des journaux assez incroyables, puisqu'il se retrouve en ancien intellectuel obligé d'émigrer aux États-Unis, où il fait plein de petits boulots, notamment il s'occupe de nettoyer les costumes.
Il change de clairement de place.
Ouais, de théâtre ou de cinéma. Mais il dit quelque chose d'intéressant. Alors là aussi, on pourrait dire c'est très idéaliste, etc. Mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui projette ma naïveté sur cette description. Il dit que finalement, une place qui nous va pas, qui n'est pas la nôtre, nous apprend des choses sur nous. Il prend la métaphore du gant. Si ma vie est comme un gant qui est parfaitement à ma taille, qu'est-ce que j'apprends de cette main et qu'est-ce que j'apprends de moi? Et alors, du coup, moi qui ai travaillé auparavant sur les épreuves, je crois qu'il y a quelque chose de vrai dont on se rend compte peut-être longtemps après l'épreuve, mais sur ce qu'elle nous a évidemment pris, ce dont elle nous a dépouillé, ce qui est de l'ordre de la perte, mais aussi ce qu'on a compris sur nous. C'est peut-être un accélérateur de lucidité qui n'est pas toujours agréable. On ne découvre pas que des belles choses, mais il y a quelque chose quand même dans cette situation qui, dans le meilleur des cas, est une force par la suite. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas une dialectique immédiate. Mais là encore, parmi les étudiants qui ont été les miens, j'ai vu des parcours de vie où justement beaucoup de vie d'exil que les élèves avaient traversé très très jeunes et qui les ont construits d'une manière assez impressionnante et qui sont souvent ceux qui font après des parcours où rien ne leur fait peur, c'est-à-dire ils peuvent partir dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, ils peuvent partir sans avoir d'adresse ni quoi que ce soit. Là, il y a un rapport au bagage, dans tous les sens du terme, qui est extrêmement différent.
Mais est-ce que vous n'avez pas un discours de privilégié? Parce que ceux que vous avez dans vos classes, ils ont déjà, entre guillemets, réussi. L'Africain, le Syrien qui balaie les trottoirs de Paris, qui a à peine de quoi manger, qui à la fin du mois c'est encore pire. Est-ce qu'on a tous la possibilité de réfléchir à cette question de la place et de,
non, bien sûr,
et de se rendre compte que le gant il va pas à notre main?
Oui, bah c'est bien sûr, c'est un intellectuel qui relie son exil, donc c'est très différent. Mais le fait que certains n'aient pas de place, malheureusement, ça n'a pas besoin d'être démontré. Enfin, on le sait. J'étais en train de lire un livre qui s'appelle Morsure de la nuit, qui est écrit par un homme qui a vécu pendant 30 ans à la rue. Et il raconte donc qu'il vit sous une tente à Paris, entre la drogue et entre les prostituées. Et il raconte que l'arrivée des migrants afghans et syriens, c'est des gens qui sont encore plus démunis que lui. Donc il y a une hiérarchie dans ces gens. Lui, il a une place dans la rue. Eux, ils n'ont même pas de place dans la rue. Donc ça paraît presque abyssal d'imaginer que lui se sent privilégié par rapport à eux. Et il dit, je comprends très bien, ils m'ont tout volé. Pourtant, il n'a pas grand-chose. Il dit c'est normal, eux n'ont absolument rien. Donc avec cette perspective là on voit à quel point effectivement il y a c'est même pas de la marginalisation, c'est de l'effacement total,
on n'existe pas.
Voilà.
Mais est-ce qu'aujourd'hui vous diriez, Claire Marin, qu'on n'est plus dans une lutte des classes mais dans une lutte des places?
Bah oui, sans doute. Il reste quelque chose de l'ordre de, je crois, de l'appartenance à une classe. Enfin, on le voit, mais on voit aussi, par exemple, comment dans les Gilets jaunes, les choses étaient un peu plus compliquées que la seule appartenance de classe. Dans les luttes qu'il y a autour des ZAD ou autour de la question écologique, il y a aussi des mélanges en termes de classe sociale qui apparaissent, qui n'existaient peut-être pas de la même manière autrefois ou qui étaient beaucoup plus éphémères.
Ça veut dire que ce qui se joue dans la question de la place, des places, c'est à la fois, si on résume, notre singularité, notre appartenance, notre insertion dans une famille, dans un groupe, dans une société, et on peut élargir à la planète, que c'est
oui,
aussi
mais
notre place là qui est un peu menacée sur la planète.
Il reste quand même des choses qui durent. Il reste quand même des ancrages affectifs, amicaux, des... Je crois qu'il y a encore des valeurs auxquelles on tient. Donc, on n'est pas dans une espèce de jeu qui ressemblerait presque à un flipper où sans cesse on est renvoyé d'un endroit à un autre. Je pense qu'il y a quand même des choses...
À certains, ça doit arriver, ça, d'être effectivement, avoir le sentiment d'être une boule de flipper.
Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et peut-être que c'est aussi, effectivement, mon privilège de dire que il y a des choses qui durent, mais je crois quand même qu'il y a une force des liens qui, justement, qui peuvent être aussi des liens plus choisis et qui résistent à toutes ces formes d'instabilité. Et moi, je suis assez frappée de voir sur ces générations qui voyagent énormément, de voir que malgré la distance, enfin plus que moi peut-être, ou que nous, ils sont capables de maintenir les liens par-delà la distance. Donc les choses se réorganisent peut-être différemment. Mais je pense qu'il reste quand même quelque chose qui nous attache positivement.
Il y a aussi, alors la question des liens, mais aussi la question des lieux. Une place, c'est aussi un lieu qui nous accueille.
Je pense qu'il faut effectivement des lieux. Mais
le sous-titre de votre livre, c'est habiter sa vie, habiter son corps. Donc habiter sa vie, forcément, ça passe par un lieu. On a évoqué le corps, mais si on élargit.
Moi, je dirais que ça passe par une activité plus qu'un lieu. Mais effectivement, il ne faut pas que les lieux interdisent l'activité. Donc l'aspect très matériel importe. Si je n'ai pas d'endroit pour faire ce qui me paraît être l'activité où je fais ma place.
Mais une caravane, c'est aussi un lieu où on peut être à sa place.
Bah, visiblement, oui, puisque dans certains récits, c'est un choix très décidé. Donc oui, tout à fait.
Une quête, que cette place, une épreuve aussi.
Oui, bien sûr. Oui, parce que...
Parfois, on a envie, c'est décourageant, on a juste envie de bâcher, de se dire, tant pis.
Oui, c'est une question, finalement, c'est la question de ce que nous coûte cette place. À quel point il faut être dans l'acharnement, dans l'entêtement.
En transclasse, ça peut coûter cher. Hein.
Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand vous disiez s'affranchir du regard de l'autre, c'est pas si facile... Mais c'est aussi la question de savoir est-ce que vraiment ça mérite autant d'efforts. Est-ce que je ne me suis pas trompée sur ce que je croyais vouloir devenir? Ça peut être ça aussi. Donc s'affranchir de leur regard, c'est aussi parfois s'affranchir de la représentation qu'on avait d'un monde sans doute idéalisé.
Ça peut être fatigant.
C'est très fatigant, mais je ne suis pas pour l'épuisement dans la lutte. Je suis pour plutôt le fait de s'écarter, de voir ce qu'on peut faire un peu à côté.
Donc le chemin de traverse.
Voilà. Quand on ne veut pas de nous, je crois qu'on peut créer quelque chose à côté.
Mais, vous avez créé, vous, quelque chose ? À côté.
Ça serait prétentieux de le dire, mais disons que j'ai pas suivi la voie qui était. Plusieurs fois, je n'ai pas suivi la voie qu'on souhaitait pour moi ou qu'on m'indiquait avec un peu d'insistance.
Dans vos livres aussi, hein, Être à sa place, Rupture, Les débuts, vous prenez le risque de dire je, c'est assez rare pour des philosophes. Là aussi, c'est une manière de dire vous m'attendez là, je me mets ailleurs.
Alors, c'est de plus en plus courant dans les philosophes qui écrivent aujourd'hui. Et notamment
on peut penser à Charles Pépin, par exemple.
Oui, c'est ça. Et puis, à d'autres philosophes plus jeunes, des femmes, mais c'est quelque chose qui était déjà très présent dans l'écriture américaine et anglo-saxonne. Butler aussi commence ses textes en s'appuyant sur son expérience, donc en réalité ça peut nous paraître neuf, mais c'est déjà un mode d'écriture de la philosophie qui existait, et c'est un jeu qui n'a pas finalement un sens autobiographique central. C'est-à-dire, c'est le point de départ pour penser des questions qui résonnent pour d'autres que moi.
La question de l'universel.
Voilà. Sans doute que c'est des questions qui nous touchent chacun à notre manière, à des moments différents de notre vie.
Je vous propose de terminer là l'entretien entre nous deux et d'ouvrir l'espace de parole. Vous avez votre place. C'est toujours la première question qui est la plus difficile.
Merci pour cette belle réflexion. Moi, ce que j'observe autour de moi, c'est qu'effectivement, vous avez dit que les places sont peut-être moins assignées que par le passé, notamment pour les femmes, heureusement. Mais en même temps, on se rend compte qu'un nombre énorme de biais systémiques empêche toutes sortes de communautés, pour prendre un exemple avec lesquels je travaille particulièrement, et font que finalement, même si ces places s'ouvrent, elles restent complètement fermées, et que finalement, cet espoir, finalement, que chacun puisse choisir sa place, se ferme malheureusement pour beaucoup. Alors, vous avez évoqué certaines personnes dans la rue, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte combien, malgré une ouverture, les biais, certains biais dont on n'a pas conscience, enferment beaucoup de gens dans ces places. Donc, finalement, je vois une sorte de paradoxe où ces places s'ouvrent, mais elles restent très déterminées.
Oui, bien sûr, mais on identifie aussi les moments où les portes se referment. Donc, on pourrait imaginer des structures de soutien qui soient là dans les moments où on bascule. Quand on parle de la rue, par exemple, on voit bien comment des enfants qui sont placés et qui vont se retrouver un peu dans la nature au moment de la majorité, c'est le moment où ils basculent, alors que jusqu'à présent, ils pouvaient encore espérer une insertion sociale minimale. Donc on sait les moments, finalement, où il faudrait être plus accueillant, plus entourant, plus encourageant, où il faudrait plus de tuteurs, où il faudrait créer des passerelles entre les individus. On connaît des structures qui fonctionnent à petite échelle, donc c'est quand même aussi une volonté politique, je crois. À certains moments, j'ai l'impression qu'on baisse les bras un peu vite, et je le dis parce que je l'ai vu pendant 25 ans en banlieue parisienne. J'ai vu les choses qui existaient, qui n'existent plus, les foyers qu'on ferme, les voyages linguistiques qu'on ne peut plus faire, enfin, tout ce qui était des principes d'ouverture et d'empowerment, comme on dit aujourd'hui, disparaissent progressivement. Je ne parle même pas des questions de santé qui deviennent catastrophiques. À un moment où la santé psychique des plus jeunes est quand même très alarmante. Donc il y a aussi des choix politiques qui sont, à mon avis, très critiquables.
Mais des choix politiques aussi qui devraient intégrer cette idée forte que chacun a droit à une place digne.
Oui, par exemple, en France, on a supprimé les éducateurs qui accompagnaient les enfants handicapés. On a fermé les écoles de sourds. Qu'est-ce que c'est que ça, sinon dire très explicitement à certains, votre enfant n'a pas sa place à l'école. Alors que ces enfants...
Donc, n'a pas sa place dans la société.
A fortiori, oui. Donc, il y a quand même des moments où on interdit très objectivement la place. Et à contrario, moi, j'ai travaillé avec un lycée... à Vaucresson, encore en banlieue parisienne, qui est un lycée qui a été construit pour des élèves handicapés et qui est un lycée mixte au sens où il y a des élèves valides et des élèves qui ont des handicaps parfois extrêmement lourds au point de pouvoir tout juste parler, de pouvoir rien faire d'autre. Et bien, ces établissements, ils fonctionnent. Ces élèves, ils réussissent leurs examens et l'un d'entre eux était face à moi l'année dernière en jury de concours et il est devenu professeur. Donc, en fait, quand on se donne les moyens, on peut le faire. On peut avoir des écoles qui sont qui permettent une intégration, y compris de public, avec des pathologies très lourdes, des handicaps très invalidants. Mais tout simplement, je crois qu'il y a, une priorité qui est très différente. Et puis une logique de libéralisation de l'école qui, évidemment, ne va pas dans le sens de ce type de, pourtant de, d'établissement incroyable.
Merci pour vos propos et la discussion avec Manuel Assalvier. Je ne suis pas certain que Pierre Bourdieu ait parlé de trahison ou de vengeance quand il rend ce...
C'est Annie Ernaux.
Annie Ernaux, d'accord. Ma question, est-ce que parler de lutte de place, ou plutôt, comme ce fut le cas dans un livre de sociologie d'entreprise il y a une vingtaine d'années, ce n'est pas un euphémisme pour ne pas vouloir parler véritablement de lutte de classe? Ça a été brièvement effleuré par Manuela, mais j'aimerais que vous...
C'est pas juste là-dessus. Une question de classe, parce que c'est aussi la question des places qu'on donne aux femmes, par exemple, ou la visibilité qu'on donne aux populations issues de l'immigration. Donc c'est pas juste... Alors évidemment, ça se recoupe. Mais c'est pas simplement une question de classe, je pense. Les difficultés qu'une femme peut rencontrer, on peut trouver des schémas assez similaires à différentes échelles de la société. En tout cas, ce qui fait obstacle ou ce qui ralentit, ça sera toujours les mêmes choses qu'on connaît et qu'on identifie.
Très bien, autre question? Je redis juste la question pour qu'elle soit enregistrée. Donc, être à sa place, être dans son téléphone, vous en pensez quoi?
Le téléphone n'est pas une place. C'est une vraie difficulté de le lutter contre la séduction d'un monde où précisément il n'y a plus du tout d'endroit à proprement parler. Et ça pose une autre question de savoir si finalement dans cette espèce de vie désincarnée il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus facile que nos vies matérielles et concrètes. Après, moi, ce que j'observe aussi, c'est des tendances assez différentes avec des formes déjà de lassitude face à cette espèce de dépendance vis-à-vis de cet objet, et c'est une forme de réaction ou de rébellion chez certains étudiants. Donc je ne sais pas si c'est...
Donc une forme de résistance.
Ouais, tout à fait. Ça devient une manière aussi de se singulariser, d'avoir finalement un usage réduit. C'est-à-dire, moi j'ai des étudiants qui sont très fiers de dire qu'ils n'ont plus aucun réseau social et qui en sont très contents, qui sont libérés de cette espèce d'injonction constante à répondre, à être présent, à se manifester. Peut-être qu'on arrive au moment où la vanité du processus commence à apparaître.
Mais pour prolonger la question de monsieur, dans un monde plus virtuel, dans un monde où l'intelligence artificielle envahit notre quotidien, il y a une année, c'était ChatGPT qui était à la disposition du grand public, c'est ça, hein, le saut, c'est ça un peu la rupture. Aujourd'hui, c'est Midjourney avec des générateurs d'images absolument incroyables. Ça va bien poser la question de notre place, mais pas individuelle dans un groupe, dans une société, dans une famille. Mais face à ça, notre place simplement d'humain?
Oui, c'est une question un peu vertigineuse pour le coup.
Pour ne pas dire effrayante, mais...
Oui, tout à fait. Après, là aussi, est-ce que ce n'est pas une question de privilégié? C'est-à-dire, pour nous, cette question, elle a l'air d'être importante parce que dans les métiers qu'on fait, c'est un outil qui est devenu plus ou moins banal. Là encore, notre perspective, elle est un peu biaisée. Donc, la question de la place de cette intelligence dans nos vies à venir, est-ce qu'on ne sera pas aussi face à une forme d'uniformisation dont on va se lasser? Je ne sais pas à quel point cette...
En même temps, il y a quelques penseurs, penseurs, entre guillemets, des GAFAM qui pensent transhumanisme, qui sont persuadés que la fusion machine, c'est pour demain et que nous sommes imparfaits, donc laissons la place aux machines.
Oui, bah, qu'ils commencent par faire des prothèses auditives qui fonctionnent et puis après, on en reparle. Qui commencent par soigner les maladies qui sont déjà là avant d'inventer des corps.
C'est pas tout à fait leur projet.
Surpuissants, mais oui, mais c'est-à-dire que leur projet s'inscrit sur des hypothèses dont la version minimale n'existe même pas. Donc c'est bien beau d'imaginer.
Mais ils travaillent nos imaginaires avec ça.
Oui, c'est ça, mais c'est, pour qu'une prothèse soit bien adaptée à un membre amputé, c'est des années et des années de
d'intégration dans le cerveau.
Voilà, et donc qu'on commence, oui, par soigner toutes ces maladies incurables, qu'on commence par s'attacher à des souffrances qui seraient peut-être assez simples d'éviter. Avant d'imaginer que, parce que c'est un discours d'élite en fait, c'est un marché, c'est une niche pour les privilégiés, c'est
assez lucratif.
C'est pas un projet, pour un collectif ou c'est pas un projet de société juste
Et encore moins égalitaire.
Et encore une fois, je crois, on en est très loin. Vraiment très loin, tous ceux qui sont censés rajeunir avec quand on les voit, on n'est pas convaincus et on n'a pas envie, en fait, on n'a pas envie de cette vie là
non, parce qu'en fait ce qu'ils essayent de nous faire croire à notre immortalité, et c'est long, hein, surtout vers la fin, l'immortalité,
c'est ça
c'est Woody Allen qui disait. Une autre question?
Alors moi j'avais une question, parce que comme vous êtes philosophe, vous avez étudié toute l'histoire de la philosophie, et c'est vrai qu'on pourrait vraiment dire que la philosophie occidentale est une philosophie de la place, parce que j'avais vaguement lu très jeune François Julien qui parlait, je sais qu'il est controversé, mais je me rappelais, je trouvais assez jolie la différence entre la pensée occidentale et la pensée orientale, entre l'être et le devenir, et cette question de la place, comment vous la liriez là-dedans? C'est pour ça qu'on est enfermé là-dedans, parce que c'est vrai que des fois, quand j'y repense, c'est pour ça que c'est beau ce livre, Être à sa place, c'est que chaque fois, cette question de la place intervient dans nos conversations quotidiennes avec les gens. Je ne me sens pas à ma place ou à ma place. C'est vrai que c'est presque de l'ordre de l'obsession. Hein.
Oui, alors là aussi, c'est peut-être un biais, parce que dans la pensée antique, on a une pensée du mouvement chez Héraclite, chez les épicuriens qui reprennent les pensées des atomistes. Il y a vraiment cette idée du devenir, de la transformation, du hasard, et peut-être que c'est effectivement des pensées qui ont été moins étudiées ou moins reprises parce qu'elles sont plus inquiétantes, mais quand on dit qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, on est déjà dans cette idée d'un devenir constant, et donc tout dépend aussi où on enracine la pensée philosophique, si on est du côté de ceux qui doutent, de ceux qui changent, ou de ceux qui pensent une stabilité, un édifice, une transmission, un héritage. Même au sein de la philosophie occidentale, on a déjà ces pensées d'une fluidité, en fait.
Merci. Je me retourne vers la salle. Alors que je continue, parce qu'il y a quand même un autre. Enfin, vous avez beaucoup parlé de la maladie, hein, on n'a pas fait mention beaucoup ici. Et c'est vrai que je crois que c'est ça qui vous a aussi... Enfin, ça se retrouve dans chacun de vos livres, en fait, cette question de la maladie, comme ça.
Et dans le premier roman...
particulier. Et peut-être un peu nous parler aussi de à quel point ça bouleverse notre place dans la famille, la relation, le travail et tout. Enfin, vous en parlez très bien, moi, ça... Je vous encourage à lire ce livre sur la maladie là, qui est sur le site.
Mais dont le titre est « Hors de moi », et on voit bien comment... la question d'un ancrage dans son corps ou au contraire le sentiment de dépossession, c'est des affects classiques ou des impressions assez classiques de l'expérience de la maladie, de ne plus se reconnaître dans son corps ou de ne plus reconnaître son corps comme le sien. C'est une expérience aussi qui est une expérience... sociale, au sens où on peut perdre son identité sociale, ses relations, son tissu amical et même familial parfois. Et c'est aussi une expérience presque temporelle, parce qu'on peut très jeune se retrouver dans un corps très vieux et très abîmé, et on peut, dans le meilleur des cas, retrouver un corps jeune si on guérit à un moment où on n'espérait plus faire ce type d'usage de son corps. Donc c'est très étrange quand on est malade jeune de se reconnaître dans une figure qui n'est pas celle de notre génération entre guillemets, donc d'éprouver déjà des expériences. C'est aussi instructif d'une certaine manière. Je ne dis pas que c'est une expérience qu'on souhaite vivre, mais quand je disais tout à l'heure, il y a des mauvaises places qui nous apprennent des choses, ça nous apprend aussi que pouvoir marcher, se tenir debout, pouvoir parler, pouvoir se concentrer, même tenir en équilibre, c'est très précieux et c'est déjà une grande chance. Donc... on parlait de privilèges tout à l'heure. Il y a des privilèges dont on a conscience que trop tard, peut-être. Et en ce sens, je ne parle pas toujours que d'une perspective de privilégié.
Vous dites que la guérison n'est jamais totale. Je trouve aussi éclairant avec toute cette attente du milieu. Alors, c'était guéri, tout recommence comme avant. Et puis, il y a toujours cette sorte de décalage, en fait.
Alors déjà, on est dans une société qui manque de patience et on est quand même très vite encouragé à revenir à la normale ou à retrouver le même rythme, comme si cette expérience ne nous changeait pas. Et on ne retourne pas à la situation d'avant la maladie, c'est ce que dit Kang Yem, qui est un philosophe et médecin, qui a beaucoup influencé Michel Foucault. La norme d'après et même parfois d'après une petite maladie, si on peut dire les choses comme ça, même si l'expression est très problématique, mais on l'entend à l'hôpital, cette expression, oh mais c'est un petit Et puis après on a un mot qui est terrifiant, oui mais il est petit. Et donc il y a, je crois, une métamorphose pour intérieure dont la portée n'est pas toujours visible et qui fait parfois aussi que l'entourage ne comprend pas, en fait, qu'on stagne ou qu'on s'enlise ou qu'on soit encore malade alors que médicalement on n'est pas malade, qu'on continue à penser comme un malade ou qu'on soit dans l'angoisse de la rechute ou la récidive.
Est-ce qu'on nous assigne aussi en tant que malade une identité de malade?
Oui, puis il y a le bon et le mauvais malade. Il y a le malade qui survit parce qu'il a été courageux, parce que... Et puis après, si vous faites partie de l'autre catégorie qui ne guérit pas, d'abord c'est inimaginable parce que à l'heure actuelle, la médecine,
la technologie, la médecine.
Et puis oui, pour le moment ils savent pas, mais bientôt, sans aucun doute, ils trouveront un traitement. Donc on est toujours trop pessimiste, on est toujours trop fatigué, on est toujours trop obsédé par la maladie. C'est difficile d'être un bon malade qui est retrouve une place qui satisfait les autres et qui est tenable.
Et qui répond aux injonctions surtout,
ouais,
et aux attentes.
Alors, comme nous, on aime bien avoir un temps de dialogue, on en a encore un peu de temps, donc je ne vais pas forcément... Je refais un petit ouverture.
On a pas mal parlé de performance, de but. Moi, je trouve qu'on vit dans un monde où, où on a tous vraiment pas mal d'objectifs à atteindre et on a parlé déjà de ça avant, de performance. Est-ce que des fois, on ne devrait pas se laisser notre place aux mains du destin ou du hasard? C'est un peu une question de personnes privilégiées, comme tout, enfin, nous tous dans cette salle. Mais est-ce que parfois, on ne devrait pas laisser un peu plus peut-être le destin parler à notre place que... Je suis pas du tout. Je suis un peu des fois partagé avec cet avis en fait.
Lâcher prise.
C'est déjà un luxe, effectivement, ouais, même un luxe presque psychologique de s'autoriser je sais pas si c'est une parenthèse ou si c'est une bifurcation pour reprendre une conversation avec l'un d'entre vous, mais. Et s'y autoriser, c'est pas si simple que ça, parce que là, pour le coup. On va retrouver ce fameux regard des autres. C'est-à-dire, et là aussi, c'est assez culturel. On voit bien dans les parcours qu'on autorise ou pas, par exemple, une année sabbatique dans un CV en Allemagne ou en France, ça ne sera pas du tout la même chose. Donc, il y a aussi des représentations ou des normes de ce que doit être un parcours. Est-ce qu'on a une année où on fait des expériences, on apprend une autre langue, on découvre une autre culture, ou est-ce qu'on fait du tourisme et qu'il serait temps de se mettre à bosser vraiment? Donc, c'est aussi ce genre de discours qui nous autorise ou qui nous culpabilise si on s'offre cette bifurcation, peut-être.
Mais ça rejoint leur dernier essai sur les débuts. Enfin, vous dites, un début, ça peut être un coup de dé, un pari.
Oui, ça peut être... une occasion qu'on saisit, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, mais qui se présente et qui a l'air de résonner d'une manière particulière. Mmh. On se dit, bah, ça vaut le coup de tenter ça.
Mais ce que dit le monsieur qui pose la question, c'est aussi se dire, est-ce qu'on n'est pas assez à l'écoute des opportunités, des signes qui nous sont parfois envoyés sans faire de l'ésotérisme à bon marché, hein, qu'on se fige dans une place, dans un chemin, et qu'on ne voit pas ce qu'il y a à droite, à gauche, en haut, en bas, et qu'on devrait juste ouvrir les yeux.
Oui, sans doute, et puis on n'est pas forcément aidé et encouragé à faire ça. On voit bien quand...
Mais non, ça déstabilise.
Oui, même de plus en plus, il y a cette idée qu'on doit savoir très très tôt dans les orientations. Maintenant, il faut déjà en France à 13-14 ans, il faudrait déjà savoir ce qu'on voudra faire plus tard. Et il y a même une espèce d'angoisse que j'entends de manière récurrente, c'est j'ai 18 ans et je ne sais pas ce que je veux faire.
Mais ça entre en contradiction à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'au fond, vos élèves se réinventent, inventent leur vie, savent que leur place est mouvante.
Oui, mais ils sont très inquiets. De ne pas répondre à cette attente qui est de dire ah bah oui, je suis sûre que je veux faire de la biochimie ou que je veux faire de la physique nucléaire ou que je veux être soignant ou des choses comme ça. Enfin, quel que soit le cadre, il faudrait qu'ils soient capables déjà de vendre leurs compétences dans un domaine qu'ils ne connaissent pas et qui peut-être n'existe même pas encore. Donc c'est aussi ça. Il y a sans doute beaucoup des carrières qui seront amenées à faire.
Avant de balancer tout par-dessus bord, parce qu'au fond, ils vont faire carrière, se rendre compte qu'ils ont, pour être un peu brutal, des bullshit jobs, et qu'ils vont finir par devenir ébéniste, brasseur de bière, ou je ne sais quoi encore, pour ne citer que des professions masculines.
Oui, bah c'est aussi... ça montre bien comment... la place qui nous satisfait ou qui nous épanouit, on la trouve après un grand détour. Et ça, je pense que ça vaut dans tous les domaines, pas seulement professionnels.
Et détour, ça peut rimer avec destin, pour rejoindre la question du public.
Alors, moi, la notion de destin, elle m'est assez étrangère, mais par contre, qu'il puisse y avoir un désir fort et qu'à un moment, on se l'interdise et qu'on y revienne très tardivement dans notre existence, ça, oui, je crois que c'est tout à fait possible.
D'autres questions ?
Pour parler de l'enseignement, il y a 50 ans en arrière, dans les écoles techniques, mécanique, électricité, horlogerie et autres, il y avait à maximum 5% de filles qui venaient dans ces écoles. Au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 5 ou 10%, guère plus. Il n'y a pas d'obstacle pour que des filles viennent dans ces écoles techniques, au niveau classe sociale ou autre. C'est apparemment psychologique ou je ne sais quoi, ou c'est leurs parents qui leur disent de ne pas aller là-dedans, de continuer des études classiques. Et pour reprendre aussi l'expression que vous venez de dire tout de suite, il y a 50 ans en arrière, à 14 ans, les gamins, ils savaient quel métier ils allaient faire, hein, soit le métier de leur père, soit un autre métier qu'ils connaissaient. Au jour d'aujourd'hui, à 25 ans, ils ne savent pas encore quel métier ils feront. Hein, ils font des études pour faire des études. Et puis, à un moment donné, ils ne savent pas quel métier ils vont faire. Donc, il y a quand même des problèmes d'orientation. Déjà, de par la famille qui doit orienter ses enfants, leur donner des pistes. Et puis, dans le système scolaire, aussi d'orienter les étudiants, puis pas les envoyer tous au même endroit, puis pas envoyer les filles tous en école d'infirmière ou en école de secrétariat ou autre chose comme ça. L'orientation. Après, j'avais encore un autre sujet. Mais...
Donc, une question par personne. Donc, question de l'orientation.
Non, mais je fais le même constat que vous. Effectivement, on voit que ça ne s'est pas beaucoup transformé, les carrières. J'irais même beaucoup plus loin. Enfin, si on dit les choses très honnêtement, il y a aussi les étudiants qu'on oriente vers des classes techniques et des filières courtes. Sur leur nom, hein, et il y a ceux dont on pense qu'ils arriveront à faire des études longues parce que leur nom a une autre consonance. Moi, j'ai enseigné dans des classes techniques pendant très longtemps, mais quand on regarde la liste des élèves, ce n'est pas la même liste en terminale scientifique et en terminale technologique. Donc là, il y a des biais qui font une sélection évidente dans la formation de réparateur d'ascenseurs, puisque c'était les élèves que j'avais à un moment, il n'y avait que des garçons, et dans la formation qui allait vers l'accueil et le secrétariat, il n'y avait que des filles. Donc il reste des clichés qui sont très forts et contre lesquels il est assez difficile de lutter. Après, il y a aussi des résistances familiales, effectivement, des études longues qui effraient les parents, pour des questions aussi parfois très matérielles et très financières, contre lesquelles c'est difficile comme professeur de lutter s'il n'y a pas à côté des internats, des bourses qui permettent de soutenir l'élève dans des études plus longues. Donc c'est par exemple un problème avec les études de médecine qui ne coûtent pas cher, mais qui coûtent cher parce que l'étudiant ne va gagner sa vie que... au bout de longues années d'études. Mais je fais le même constat que vous et je constate aussi que les tentatives pour ouvrir aux élèves une plus large représentation de la vie professionnelle telles qu'elles ont été instituées, c'est-à-dire les stages assez tôt en entreprise, et finalement tous ces stages sont de la pure reproduction sociale. On va faire un stage dans l'entreprise de sa tante ou de son voisin et ça ne change pas les imaginaires. Donc il faudrait sans doute envisager d'autres choses pour que véritablement quelque chose comme des désirs d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, puisse surgir, mais il faut aussi encore très concrètement des structures, il faut des bourses qui soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas, il faut des internats ou des chambres d'étudiants, et tout ça c'est ce qu'on n'arrête pas de fermer. Donc à partir de là, c'est difficile effectivement d'encourager un étudiant quand on sait qu'il va avoir beaucoup d'heures de cours et qu'en plus il va falloir qu'il travaille le week-end, qu'il travaille le soir dans de la restauration rapide, et que tout ça, ça va être très compliqué à concilier. Et on sait ce qu'il abandonnera en premier. Il abandonnera ses études. Donc là, pour le coup, ça, c'est la version triste aussi de ce que je vois. C'est-à-dire le moment où, ben non, on ne peut plus être à la fois vendeuse le week-end et en cours la semaine. Et donc, on est vendeuse et les études s'arrêtent là.
Et donc, la possibilité de trouver d'autres places se restreint.
Bien sûr.
Bonsoir. Ben, on a entendu qu'en essayant, on prend une certaine place et puis qu'après, en fonction des aléas de la vie, on va chercher à avoir une meilleure place. Une meilleure place au niveau de la société principalement, parce qu'on essaie d'avancer, mais parfois la meilleure place c'est pas forcément la meilleure place pour la personne, puis que c'est des fois pas plus difficile de chercher la place qui nous correspond, qui est peut-être pas socialement celle qui est attendue, que ce soit par les amis, l'épouse, les parents, notre éducation. Et en fin de compte, cette meilleure place est un peu enfermante aussi quelque part par rapport à la place qui nous correspond.
Ça, c'est sûr. Il peut. C'est la question du coût, peut-être, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est combien ça me coûte socialement, affectivement, familialement, d'aller vers cette meilleure place. Et est-ce que ça ne crée pas tout autant de souffrance ou de chagrin que de se conformer à une place plus facile. C'est une question aussi très féminine hein, dans le calcul d'une carrière et la conciliation avec la vie familiale ou le fait d'y renoncer. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est très fréquent comme type d'interrogation, je crois.
Mais souvent, faire carrière, ça veut dire grimper dans les échelons, ça veut dire avoir plus de responsabilités, ça veut dire avoir un meilleur salaire, parce que les attentes sociales ou de la famille sont celles-là. Ah, t'as une bonne place, c'est super, alors que peut-être on a envie d'être brasseur de bière. Enfin,
qui a un statut
social moins prestigieux.
Brasseur de bière.
Oui, parce que je vais essayer de trouver d'autres exemples pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que ça ne correspond pas aux attentes et c'est moins prestigieux. Quand vous dites meilleure place, vous pensez prestige. Voilà. Alors que peut-être c'est la place.
Oui, après, encore une fois.
D'un boulanger ou d'une boulangère.
On peut s'en défaire. C'est-à-dire, il y a aussi des prestiges dont on a vite fait le tour. Des titres dont on sait à quel point parfois ils sont creux. Ou des positions qui sont surtout des postures. Donc il y a un moment aussi où il faut savoir déjouer les illusions et ne pas céder à cette apparence. Je vous parle de ce que c'est qu'être prof aujourd'hui en France. En termes de prestige social, on voit bien qu'on en est assez loin. Mais voilà, quelle est la part de cette valorisation extérieure et parfois plus ou moins fondée dans nos choix? Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il y a aussi une certaine satisfaction à ne pas choisir en fonction de la plaque dorée qu'il y aura à l'entrée de notre cabinet. Donc, il y a quand même des résistances aux apparences ou aux marques ou aux signes, aux petits symboles qui sont des victoires personnelles, je crois. En tout cas, ça peut valoir la peine d'avoir ce genre de petits combats.
Je suis sûre qu'un brasseur de bière peut mettre une petite plaque dorée.
Ah oui, oui, mais bien sûr, on peut aussi faire valoir ses titres quand on en a.
Non, mais c'est un titre, brasseur de bière.
Oui, oui, bien sûr.
Je crois que je vais me reconvertir. À une année de la retraite, je vais venir. Ça existe, brasseuse de bière. J'aime pas la bière, c'est ça le problème. J'aime pas du tout la bière.
Ça, c'est quand même très intéressant, ça, ce dernier aveu.
C'est, bah, ouais. C'est une confidence psychanalytique.
Oui, c'est les fauteuils qui sont trop confortables.
Complètement.
Ah oui.
Attendez le micro.
Alors là, j'ai aussi un discours de privilégié. Alors je comprends que... on peut nous offrir une place et ne pas se sentir à sa place. Mmh. Alors comment on fait pour résoudre en fait cette dissonance entre on m'offre une place mais je ne me sens pas à ma place. Et il y a tout cette comment dire le corps en fait qui nous informe que je ne suis pas à ma place. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a ce malaise, on ne sait pas trop. Donc est-ce qu'on peut agir sur le corps? Jusqu'à quel point on peut agir sur le corps pour pouvoir la conquérir cette place mais de l'intérieur?
Alors, soit il y a une intuition qui s'incarne, qu'il faut peut-être écouter, soit effectivement c'est quelque chose comme une forme de sentiment d'imposture. Et là, c'est l'habitude qui nous aide et qui progressivement nous permet d'acquérir le corps qui sera à l'aise dans cet espace social, symbolique, etc. Mais c'est une question qui n'est pas, enfin, ce n'est pas un réflexe occidental de dire là cette intuition elle dit quelque chose de plus que ma peur ou mon manque de confiance. Et là-dessus, dans une logique de rationalisation de calcul, on va faire toute la liste de ce pourquoi cette place c'est la bonne place et on va croire qu'on peut, comme ça, presque calculer que cette place est celle où il faut s'efforcer d'aller. Moi, je pense quand même que c'est, là encore, sans faire de l'ésotérisme, mais qu'il y a parfois des intuitions qu'on a intérêt à reconnaître.
Des rêves aussi.
Oui, sans doute. Oui.
Et c'est tellement jouissif quand on a le sentiment d'être à sa place. N'est-ce pas? Devant une classe, vous avez ce sentiment-là?
Ah, il y a des cours qui sont vraiment très 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 forts, très intenses et très satisfaisants pour moi et pour eux, je crois. Mais ouais, heureusement qu'il y a ces cours-là.
Oui, non, voilà, ils sont à la place qu'on leur a assignée, c'est-à-dire celle d'étudiants.
Ouais, mais avec aussi une place singulière, c'est-à-dire qui n'est pas passive et qui dit quelque chose de leur personnalité.
Encore une dernière question, réaction.
Y a-t-il un brasseur dans la salle?
Merci. Merci, je vais être très court. La première chose, en vous écoutant, j'ai eu l'impression d'entendre une certaine apologie de l'insatisfaction. Et la deuxième chose, c'est que est-ce que cette insatisfaction serait le moteur de l'évolution de l'être humain? Deuxième remarque, les Chinois résument très bien la chose en disant qu'un poisson qui va dans le sens du courant est un poisson mort. Deuxième chose, c'est le principe de Peter. On évolue et on progresse jusqu'à ce qu'on atteigne son niveau d'incompétence et là on stagne, ce qui montrerait que le monde est dirigé par une masse d'incompétents. Et la dernière remarque, c'est est-ce que le fait de se sentir bien dans sa peau, bien à sa place, heureux, tranquille, est une attitude de Benet?
De ravi de la crèche. C'est beaucoup de questions. On commence par la dernière.
Non, je ne crois pas. Si on est dans cette belle plénitude et dans cette satisfaction, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Enfin,
et qu'on passerait pour un Benet.
Bon,
on peut la partager, cette joie-là, non?
Oui, bien sûr. La question, c'est est-ce que la joie peut être autre chose qu'une activité, enfin, qu'est-ce qui produit ce bonheur qu'on évoque ou cette satisfaction? Et là où je pense, effectivement, bon, j'emploie pas souvent ce terme d'insatisfaction, mais peut-être que vous avez raison, alors je ne fais pas non plus d'apologie, je crois, mais j'aime bien cette idée, effectivement, que c'est jamais totalement fini et que c'est jamais totalement plein, puisque la satisfaction, c'est ça, c'est j'ai assez. Mais je crois que c'est une question de curiosité, tout simplement. C'est-à-dire, oui, on pourrait dire, j'ai déjà lu beaucoup de livres, ça va. Mais non, on a envie d'en lire plus. Enfin, c'est aussi un désir de...
un élan de vie aussi.
Je crois, oui. Donc, il y a quelque chose qui est moteur. Donc, peut-être que c'est une insatisfaction, mais qui est gourmande, on va dire. Et pas, comment dire, pas gloutonne. Il ne s'agit pas d'accumuler pour accumuler, mais c'est vraiment essayer d'apprendre plus, en fait, ou de connaître plus, ou de découvrir plus de choses. Donc, oui, en ce sens-là, je suis insatisfaite. Et j'espère que ça va durer. Quand je dirais, j'ai bien assez de livres, il est hors de question que j'en achète un de plus, c'est que, sans doute...
Mais attention à votre principe de Peter.
Oui, peut-être. Ouais. Ce sera temps d'ouvrir une brasserie.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Claire Marin. Merci.
Merci beaucoup encore pour cette fine et riche discussion. Je vais encore, ouais, pour celles et ceux qui sont arrivés, il y a l'exposition à Guillaume Perret qui est présent ici. Peut-être que tu restes un petit peu encore parce que vous pouvez rester boire un verre autour du bar qui fait écho aussi avec vos réflexions. Vous, une fois, je vous ai entendu, vous dites que ne fallait pas penser à une vie, avant de penser à une vie augmentée, il fallait réfléchir à une vie simplifiée. Je trouvais ça joli, donc... Encore une petite apologie pour aller voir les livres, parce que c'est déjà une petite invitation, et vous pouvez les signer, vous restez un petit moment pour les signer. En tout cas, c'était un très beau moment. Et je fais de la pub, parce que c'est la fin de l'année, mardi prochain, avec un événement, mais la saison continue jusqu'à fin janvier. Une autre philosophe, Corinne Pelluchon, vient, qui elle appellera à renouveler le projet des Lumières en amenant une autre considération sur les autres et le vivant. Elle est fabuleuse aussi, donc venez. C'est 23 janvier, autour du 20 janvier, 23 janvier je crois. Voilà. Et merci à Sacha et merci encore à vous d'avoir été à cette place ce soir. C'est une très bonne place chaque fois et très belle fin de soirée. Merci vraiment.